Bienvenue sur VUD Labs, nouvel épisode. Donc je m'appelle Thibaut Prémor, toujours content d'être là. Et aujourd'hui, nouveau guest qui est un membre de VUD, qui est un membre même fraîchement arrivé. Salut Edouard.
Salut Thibaut.
Alors est-ce que tu peux du coup te présenter déjà premièrement?
Je m'appelle Edouard, j'ai 20 ans et je viens d'arriver à l'ESIL depuis septembre.
Trop cool. Et du coup, donc t'as fait une, prépa, c'est ça, avant?
Ouais. J'ai fait une prépa sur Dijon, prépa PT, pour ceux qui connaissent. Et après, voilà, je suis arrivé à l'ESIL.
Et il a intégré du coup VED en septembre finalement, pareil, comme ça a rentré. Du coup, donc à VED, qu'est-ce que tu fais justement dans quel team tu es?
Même si donc moi je suis team Formula Student, parce que c'est vraiment ça que je voulais faire de base. Et je suis dans un team liaison au sol. Donc c'est tout ce qui va s'occuper de la direction, de pas trop du châssis, mais vraiment tout ce qui est direction des roues, etc. Moi plus précisément, je m'occupe des mises en plan. C'est des pièces qu'on a à faire usiner pour les usineurs professionnels, que nous on ne peut pas usiner, qui sont trop compliquées. Et voilà, c'est pour des plans détaillés pour eux.
Ok, t'es dans plusieurs assos du coup ou t'es que à VED?
Alors je suis dans plusieurs assos. Là, je suis à 3V aussi, du coup. C'est le BDE de l'ESILV et VED, du coup.
Trop bien. Et du coup, donc, pourquoi avoir choisi VED comme asso? Est-ce que tu la connaissais tout de suite? Enfin, comment tu l'as connue? Comment ça s'est fait, ta rencontre avec VED?
Alors, je ne l'ai pas connue tout de suite. Je ne savais même pas que vous faisiez une Formula Student, parce que c'était vraiment un truc que je voulais trop faire dans l'école d'ingé et que je ne savais pas que vous faisiez au début. C'est en faisant la journée intégration au parc Astérix, du coup, j'avais la chef d'équipe qui était Héloïse Hamel, qui est l'ancienne directrice, je crois, du...
Ok, directrice.
Oui, ancienne directrice FS et qui est directrice du PE cette année.
Qui m'en a parlé et du coup, je suis accroché.
Là, enfin, t'avais VED, enfin, le projet de la Formula Student, on a plusieurs teams. Pourquoi du coup partir plus sur LAS que sur les autres teams de la Formula Student?
Alors pour moi... Déjà, niveau de compétences, j'ai pas trop de compétences en style aérodynamisme. Ça, je trouve ça stylé vraiment, tu vois. Mais j'avais pas forcément de compétences là-dedans, de savoir utile à apporter. Après, composite, ça me tentait un petit peu moins. Pareil pour système embarqué, je suis nul dans tout ce qui est électrique. Donc, donc vraiment, LAS, pour moi, c'était un peu une évidence, quoi.
Et donc là... Tu viens d'arriver à l'ESILV, ça fait maintenant 6 mois que tu y es. C'est pour faire quel majeur après? T'as une idée ou pas?
Alors de base, je voulais peut-être faire la majeure méca. Ouais. Sauf que, en soi, si j'avais voulu faire plus méca, je pense que je serais parti plutôt à l'Estaca. Du coup, je pense que je vais plutôt partir en IF.
Ok, donc c'est un peu tes deux majeurs où tu es sûr de ton choix IF ou...
Plutôt sur IF quand
même. Ok, d'accord,
ouais.
On est vraiment quasiment sûr. Ok, trop cool. Et pour faire quoi après, t'as déjà une idée du métier que tu veux faire
En soi, gagner pas mal d'argent.
C'est déjà un bon objectif.
Et ouais, après pouvoir me faire plaisir plus tard, acheter des belles voitures et tout.
Trop cool, parce qu'il y a toujours la passion de la voiture. J'ai une question là, parce que donc, ce qu'il faut savoir, tu n'en as pas encore trop parlé, mais on va évidemment en parler aujourd'hui. Tu as une expérience assez énervée dans la Formula Student, c'est ça? Donc, qu'est-ce que tu as fait déjà très brièvement et on détaillera après?
Alors en fait, je suis dans le sport automobile depuis tout petit et mes parents ont une sensibilité du coup dans l'automobile. Et j'ai connu la Formula Student en fait par l'équipe Mets Racing Team qui ont fini deuxième en 2022 du championnat. Ils sont venus en fait voir la société de mes parents parce qu'ils avaient besoin de conseils sur tout ce qui est moteur et tout, etc. Et mise au point. Et en gros, depuis ce temps-là, en fait, Mets Racing Team vient tous les ans, quelques journées en fait, pour essayer de mettre au point sur banc et tout, etc. leur moteur. Et c'est comme ça que je les ai connus à pouvoir. Voir un peu leur projet, ce qu'ils faisaient, etc. Et après, du coup, comme je voulais de base un peu aller à l'Estaca, c'était un peu un objectif, je m'étais pas mal renseigné sur l'Estaca et surtout la FS, et je connais l'actuelle directrice de la Formula Student à l'Estaca, c'est une amie, donc c'est aussi comme ça que je l'ai connue.
Il a des contacts en béton. Et du coup, enfin, tu m'avais pas parlé d'un truc que tu avais été pilote, non, ou je sais plus, non, ou je rêve complètement.
Alors, si, je suis pilote.
Ah voilà, c'est ça, oui. Et donc du coup, c'était, enfin, t'es pilote de quoi?
Alors, j'ai commencé par le karting, donc comme bah, un peu tout le monde souvent au début. Et bah, en vrai, le karting, meilleure école. Franchement, c'est incroyable. Pour apprendre tout ce qui est trajectoire, les freinages, vraiment, c'est, y a rien en fait. Y a pas d'aide au karting. C'est le volant et juste toi derrière, quoi. Donc c'est vraiment incroyable. Au début, j'ai commencé sur des petites cartes comme on peut louer. Puis après, je me suis acheté mon propre kart, vraiment un kart de compétition. Et voilà, j'en fais toujours et je kiffe.
Et du coup, enfin le kart, tu le ré... enfin du coup tu fais genre les réparations si nécessaire ou quoi, tu manipules dessus quoi.
En fait, ah ouais, déjà, ça m'a appris énormément de trucs, le kart. Vraiment incroyable. Parce que c'est basique comme mécanique, mais il y a plein de réglages dessus. On peut régler le parallélisme, l'ouverture des voies, etc. Vraiment, la chasse, etc. N'importe quoi en fait.
Trop cool. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment une grosse force de Edouard, c'est qu'il a un recul que beaucoup n'ont pas à VED, recul qui n'est pas enfin nécessaire pour rentrer dans l'association, hein, vraiment pas, mais du coup c'est enfin c'est vraiment une force et c'est pour ça enfin donc justement donc t'as connu enfin tu connais l'équipe donc de Mass Racing Team, tu sais un peu comment ils bossent et ça enfin pour nous ça nous rend toujours curieux justement de savoir bah, comment enfin les autres équipes travaillent sur des projets en commun. Du coup voilà encore une fois la maladie du coup. Toujours présente, toujours présente. C'est vraiment terrible. Donc, quand tu es arrivé à VED, avec enfin, l'expérience que tu as eue, voilà, quelles ont été tes premières impressions de cet assaut dans cette école, justement, technique, enfin, dans cette école généraliste, justement, qui est les SILV?
Alors, premièrement, déjà j'ai remarqué l'ambiance. Déjà, vous êtes assez soudés. Vous avez un groupe qui est vraiment bien et tout. Tout de suite, j'ai vu la bonne ambiance quand même, malgré tout, que ce soit un projet qui soit sérieux et qui implique beaucoup de travail. Il y a toujours cette bonne ambiance qui est de où on rigole et tout, même en travaillant. Donc, ça, c'est vraiment cool. Après, bon, j'ai vu aussi qu'il restait beaucoup, beaucoup de boulot.
N'aie pas peur de dire les points négatifs, Edgar. Edgar, Edouard.
Donc, ouais, super bonne ambiance. Par contre, j'ai vu tout de suite aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de boulot encore à faire. Voilà, quand j'ai vu un peu les assemblages au début, c'était, il y a beaucoup de trucs qui sont bien faits, et il y a des trucs qui sont à reprendre, que plus je suis en train de regarder, en même temps, plus j'en découvre aussi. Là, comme il y a quelques heures justement, on a découvert encore deux, trois problèmes techniques à résoudre. Donc là, c'est pour ça que, par exemple, ce soir, on a une réunion avec les anciens qui ont vraiment été les pionniers un peu dans la LAS, au début pour la Formula Student. Et leur demander en fait, parce que j'ai pas non plus la science infuse, donc ça se trouve, ils ont fait des choix techniques que pour moi qui me paraissent pas normaux, mais pour eux, peut-être qu'ils ont une explication derrière parce que vraiment c'était pas possible de faire autrement, ou ils ont fait ça parce qu'ils ont vu sur tel modèle, etc. Donc voilà, avoir une vraie discussion pour voir comment ils ont réfléchi à faire cette pièce-là et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour résoudre ces problèmes.
Ok, et est-ce que là du coup. Oh. Je pense qu'on va faire quelque chose pour. Chaque du coup, ça va être une pinte de bière offerte. Allez hop là, encore quelque chose que je dis qui est enregistré et que je vais regretter. Ah là là, c'est compliqué. Mais dans ce cas, est-ce que ça t'intéresserait potentiellement de devenir chef de projet, enfin d'avoir plus de grade, on va dire, dans la formula student.
Bah ouais, franchement, carrément. Parce que là, depuis que j'ai intégré l'équipe, franchement, j'y passe vraiment un peu de temps. Et puis, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, quoi.
Ouais, trop cool. Trop cool, trop cool. Du coup, j'aimerais qu'on revienne. Une pinte. J'aimerais qu'on revienne un peu plus sur ce que tu avais fait, donc, enfin, ce que tu as bossé avant. Donc avec la Formula Student, tout ça. Donc tu as parlé de Mess Racing Team. Est-ce que enfin tu as eu l'occasion de travailler avec eux ou est-ce que c'était du enfin tu étais en contact avec eux, enfin comment c'était quoi en fait que
Ah,
tu
c'était
faisais?
via l'entreprise du coup
De tes parents.
Mes parents.
Ouais.
Et j'ai pu voir en même temps quand ils développaient, etc. Pouvoir travailler en même temps sur voir comment ils avaient fait. Et puis, quand ils faisaient de la mise au point moteur, vraiment, tous les conseils qu'ils ont eu, etc. Bon, là, eux, ils étaient en thermique. Ici, maintenant, la FS, elle est en électrique. Donc, c'était différent, mais il y a pas mal de trucs. Eux, ils avaient des gros problèmes au début, sur le moteur. Et après, sur tout ce qui était transmission, etc. Donc, c'était un gros problème que même là, la transmission, même si c'est des moteurs électriques, il y a beaucoup de choses à revoir. Parce que c'est pas facile, en fait. On va sortir beaucoup de puissance et de couple, surtout, il faut que les pièces puissent tenir.
Ok, ouais, donc forcément très difficile à faire adapter et du coup pas hyper comparable par rapport à Mess Racing Team. Enfin, dans ce cas, si c'est eux une voiture thermique, j'imagine que c'est forcément pas les mêmes exigences. Est-ce qu'on peut dire que du coup c'est plus difficile un projet de formation student électrique qu'un projet thermique?
Alors pour moi, c'est plus facile plutôt, parce que vraiment dans le moteur électrique, il n'y a pas toute cette partie vraiment mise au point du moteur thermique. Il faut savoir qu'un moteur thermique, c'est très exigeant, c'est très pointu comme un réglage en fait. Et s'il n'est pas bien réglé, ça ne marchera pas correctement en fait. Ça pourra marcher, ça pourra rouler, ça ne marchera pas bien. Donc c'est vraiment important pour moi. Alors que le moteur électrique, bon, c'est différent, il y a moins de réglages possibles. On va pas tout ce qui est carbu, injecteur, etc. On va pas tout régler, quoi.
Ok, mais du coup, la difficulté, elle est plus vis-à-vis du châssis, j'imagine, parce que forcément, encaisser une accélération électrique, c'est pas la même chose qu'une accélération de type thermique. Je pense que tu peux me le confirmer.
Ah oui, carrément. Surtout avec l'électrique, là, il faut avoir la partie liaison au sol, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de boulot, parce qu'il va falloir encaisser des grosses accélérations et aussi des grosses décélérations, du coup. Mais, ouais.
Toi aussi, tu vas payer des peintres. si, là, enfin, avec... Donc, on a parlé de Mess Racing Team, comme contact que tu as eu avec la Formula Student. Est-ce que tu as eu d'autres contacts avec la Formula Student via d'autres équipes, ou c'était exclusivement avec Mess Racing Team?
Ah, du coup, avec l'Estaca, comme je disais, la directrice actuelle, Elise Bowles. J'ai pas mal discuté avec elle, parce que quand je voulais rejoindre l'Estaca, elle venait de rejoindre la Formula Student. Et du coup, on a beaucoup parlé des choix techniques, etc., qu'elle avait fait, parce que j'avais déjà un tout petit peu d'expérience aussi en sport auto à ce moment-là. Donc on a pas mal parlé des choix techniques, etc. Eux, ils sont aussi en moteur électrique depuis 2-3 ans. Et donc, franchement, ils m'avaient présenté dans le projet, en fait, tout leur assemblage un peu complet. Et donc on avait pas mal vraiment échangé là-dessus.
Écoute, ça pourrait peut-être même être intéressant dans le cadre d'un autre podcast d'avoir cette personne, justement, pour échanger hein, sur la Formula Student. Mais beaucoup trop cool. Avec Mess Racing Team, ça serait quoi la partie, le domaine de la Formula Student dans lequel tu as le plus progressé, où tu as eu justement le plus de conseils, ou là où tu as le plus upgrade, quoi?
Depuis cette année?
Si tu prends juste toute ton expérience avec Mess Racing Team et tout ce que tu as pu voir, pas vis-à-vis de nous, je parle plus là vis-à-vis de ton expérience extérieure.
En fait, Mess Racing Team, j'ai vu un peu à quoi ressemblait un peu la FS, etc. Mais c'est pas forcément eux qui m'ont vraiment donné cette expérience, en fait. C'est bien plus avant et d'autres choses, en fait, vraiment.
Et quelles sont ces choses alors, Edouard?
Déjà, il y a pas mal de... Comme j'étais en sport auto tout le temps avec mes parents, globalement, j'ai appris pas mal de trucs, parce que j'essaie d'être curieux, souvent, avec, tiens, ça sert à quoi de faire ça? Pourquoi on règle ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Le kart, vraiment, ça a été le béaba déjà pour aider, faire tous les réglages du kart, l'entretien du kart. En gros, chaque sortie, j'enlève le kart, je mets sur le drive-up. C'est un chariot qui permet de travailler dessus, à hauteur. Et je révise tout dessus, en gros. Nettoyer, regarder tout ce qui est les jeux qui ont bougé, etc. Vraiment, donc c'est vraiment important de faire ça, tout simplement pour pas perdre une roue ou quelque chose comme ça pendant qu'on est en kart, parce que bon...
Effectivement, ça paraît... plus ou moins nécessaire, je pense.
Pour ceux qui savent pas, des cartes de compétition, moi j'ai qu'un Rotax, ça n'a pas de vitesse, mais on arrive déjà sur des vitesses entre 100 et 130 km/h. Donc si on se prend une boîte à 100 km/h, ça peut faire très mal. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux éviter tout risque et vraiment réviser avant.
Tu t'es déjà blessé ou pas en carte en envoyant valser ton carte dans le circuit
Alors pas en envoyant valser, mais en fait j'ai commencé, c'était dès ma première année je crois. J'ai commencé, c'était un circuit, une petite défaut du circuit, où je m'étais déjà fait mal avant à une espèce un peu derrière le dos, une côte. Et en fait, il arrive une bosse sur le circuit, je l'ai pris à peu près à pas loin de 100 km/h. Il faut savoir qu'il n'y a pas de suspension sur les cartes, c'est vraiment dur. Et au moment de sauter, j'ai pris la bosse, clac. Vraiment, j'ai senti le clac comme ça.
Mais qui venait de ton corps, le
des
claque
côtes, ouais, des côtes.
D'accord.
Et okay. Je me suis fait une côte, quoi.
D'accord. Bon, et donc, ça a mis combien de temps
Ah, il a fallu 2 mois quand même.
Ah, quand même, ok. Bon, oui, ça... j'ai vu des accidents. Je sais pas si tu avais vu le reportage sur Netflix de Michael Schumacher.
Ouais, je l'ai vu.
Où
ouais.
Il avait eu aussi un sacré accident en kart et c'était aussi violent. Bon, je crois qu'il y avait plus qu'une côte fêlée dans ce cas-là.
Bah, en fait, souvent, les accidents en sport auto, c'est les plus graves. C'est souvent pas en Formule 1 aussi, par exemple, ou en kart. C'est quand il y a contact roue contre roue, en fait. Parce que là, souvent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un kart qui décolle. Et c'est déjà arrivé, même en championnat de France, qu'il y a un kart qui décolle, un autre qui passe en dessous, tellement que ça décolle.
Et là, en plus, le poids d'un kart, t'as une idée, je sais plus combien ça,
ouais,
ça,
c'est,
ça pèse.
C'est entre 80 et 90 kilos.
Ouais, ouais, donc quand même, ouais, ok. Plus la vitesse, forcément, ouais, il y a de quoi se faire mal, très clairement. Et est-ce que, du coup, tu as participé à des compétitions?
Alors, non, jamais.
C'est... Ah d'accord, donc t'avais ton kart, tu faisais les réparations de ton kart et zéro compète à côté.
Ouais non en fait souvent parce que j'avais pas forcément trop le temps déjà et faut savoir que faire de la compétition en kart c'est quand même un vrai budget et j'avais pas forcément le budget.
Parce que il faut prendre le budget de quoi, de transporter le kart, de prévoir toutes les pièces à changer ou quoi, c'est ça?
Ouais en fait vraiment c'est très très compliqué en fait, c'est un budget monstre. Souvent je crois que c'est les 3 premiers, un truc comme ça, en championnat de France, c'est un châssis et un moteur par course. En gros, c'est limite un kart neuf par course. Un kart neuf, c'est 8 à 10 000 euros. Donc, si on n'a pas les sponsors derrière, c'est pas possible. Et il y en a très peu qui sont sponsorisés. Et puis, je sais pas, ça m'intéressait pas forcément. Je préférais rouler. J'ai commencé en fait à en faire moi, et puis mon père m'a suivi. C'est-à-dire qu'en fait, j'en fais avec mon père. Du coup, on a 2 cartes et puis...
Lui aussi a son carte.
Ouais.
Incroyable.
On a commencé sur le même carte. Et puis c'était chiant de faire une session moi, après une session lui, une session moi, une session lui. Donc au bout de 2 mois, il a acheté son carte aussi et puis maintenant...
Et c'est quoi, la valeur d'un carte ça vaut combien si t'en achètes un d'occasion ou...
À d'occasion, en fait, on trouve vraiment de tout. C'est impressionnant. Il y en a qui voudront te vendre... un kart qui est en miettes pour 2000 euros, 3000 euros, en fait. Donc, alors, j'ai recherché sur Le Bon Coin, en fait, mais pendant 2 mois, tous les jours, pour essayer d'avoir la perle rare un peu. Et j'ai trouvé, justement, j'ai eu mon kart, une remorque pour le déplacer, remorque fermée et tout, bien correctement. Un Micron, c'est comme les Alfano, ça permet d'avoir les temps autour, le régime moteur, etc. Ça vaut 300-400. Plus, j'ai eu le drive-up avec. Un drive-up, c'est ce qui me permet du coup de travailler à hauteur dessus. Et ça vaut 400-450. Et tout ça, je l'ai eu pour 1600, du coup.
Ah ouais, ok. Donc au final, comparé à... Parce que tu m'as dit 2000 pour le kart qui était en miettes, c'est ça?
Ah ouais, mais des fois, c'est impressionnant. Mais vraiment, j'ai cherché 2 mois... Pendant 2 mois, tous les jours, pour trouver vraiment la perle rare qu'il me fallait, en fait.
Et au sujet des compètes, y a, même dans le futur, non, ça t'intéresserait pas d'en faire avec ton propre carte et tout. Ce sera juste en faire tout seul, toi, faire de la mécanique dessus. Il n'y a que ça qui t'intéresse.
Non, pourquoi pas, franchement, après. Mais au cas où, les compètes plus en automobile, parce que... J'aime bien maintenant le kart, mais j'aime bien aussi le conduire en automobile. Donc Franchement, un mélange des deux serait pas mal. Peut-être faire de la course en auto et garder le kart comme un loisir.
Ok, trop cool. Et t'as parlé d'autres expériences automobiles. Donc, on a parlé de Mass Racing Team, on a parlé du kart. Est-ce qu'il y en avait d'autres, du coup, que tu as eu peut-être encore grâce à tes parents et leurs entreprises?
Ouais, totalement, du coup. En plus de ça, j'ai pu avoir. J'ai fait de l'assistance, du coup, en sport proto cup sur un proto, du coup.
C'est hyper stylé, ça.
Une Chevron B61. C'est un proto, vieux proto. Et puis, y en a deux exemplaires qui ont été faits de ce modèle-là, donc en plus. Un peu rare.
Et t'as fait ça pendant combien de temps?
C'est sur des courses. Il y a ce qu'on appelle l'historic tour. En fait, c'est où il y a plein de rassemblements de vieilles voitures et c'est des week-ends de course. Et j'ai fait ça quelques fois, du coup, une fois à Dijon, une fois à Nîmes. Et ça, c'est hyper formateur, en fait. Franchement, c'est. Parce que, en gros, le vendredi, il y a tout ce qui est essai libre, souvent. Le samedi matin, c'est les qualifs. Samedi après-midi, c'est course 1. Dimanche, course 2. Et après, le week-end est fini. Mais entre guillemets, entre chaque session, souvent, il faut revoir tous les serrages, revoir, purger les freins, etc. Vraiment, comme c'est des, entre guillemets, des vieilles voitures, souvent, ça a tendance à, des fois, des trucs qui se desserrent, des trucs comme ça. Donc en fait, moi, j'avais pas forcément les connaissances techniques pour faire l'assistance sur le moteur s'il y avait besoin de faire un truc parce que j'avais pas les connaissances. Par contre, le fait de rien que nettoyer la voiture, voir tout ce qui a bougé tout de suite, qu'est-ce qui va pas. Donc le vendredi, on le fait une première fois, bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, voilà. Le samedi matin, après les qualifs déjà, tout de suite on voit déjà ce qui a bougé. On est habitué à la voiture, donc voilà, c'est revoir tout ce qui est serrage, etc. Et ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que souvent, on peut vite, ça peut prendre 5 ou 6 heures de maintenance, en fait, rapidement, entre deux courses, etc. Quoi.
Ok, et vous étiez combien par équipe pour une voiture, justement?
Ça dépend, l'un était deux.
Dans chaque fois. Ah oui, donc ça va.
Donc, mais il ne faut pas traîner non plus, quoi.
Mais deux, y compris le pilote, du coup
c'était... Non, exclu
le pilote. Ok, d'accord. Et le pilote, c'était un professionnel ou
Alors, c'est plutôt amateur, mais il a un très très bon coup de volant. D'ailleurs, il a eu une école de pilotage, etc. Donc il...
Grâce à ça, il...
Avant, quoi.
Ah, ok, d'accord. Ok, beaucoup trop cool. Et est-ce que tu penses que... est-ce que tu pourrais dire que c'est l'expérience la plus formateur que tu aies eue dans le sport auto ou est-ce qu'il y en aurait encore une plus formatrice?
Pour moi, plus formatrice, ça a été le kart, vraiment. Parce que je regarde par exemple la FS. La FS, c'est un gros kart. Vraiment, vous avez en solution technique, vous avez pris les mêmes trucs que le kart. Sauf que j'ai l'impression que vous n'êtes pas basé sur le kart. Vous êtes arrivé aux mêmes conclusions que pour un kart, mais sans passer par. Sans avoir l'idée du kart, en fait, avant. Donc.
On a réinventé la roue, quoi.
C'est ça. non, mais. C'est intéressant parce que du coup, tout de suite, je suis arrivé et j'avais, on va dire, cette vision globale que je trouve qui manque un peu dans l'assaut. C'est sur le projet, vous avez très catégorisé par tâche, FS, LAS, aéro, composite, etc. Mais je trouve que ce qui manque, on va bosser sur une pièce, mais on va pas avoir la vision d'ensemble de à quoi sert cette pièce, quelle contrainte va vraiment se mettre dessus. En dynamique, quand elle va bouger, quand elle va passer sur un vibreur, etc. Et quelles autres pièces vont avoir de l'influence dessus, etc. Ça, c'est un tout petit peu, je trouve, qui manque dans cet assaut. C'est la vision un peu d'ensemble.
Ouais, mais je pense que, effectivement, tu as complètement raison. Et je pense que ce qui explique ça, c'est aussi qu'on est encore quand même vachement dans le théorique, même s'il y a des choses qui commencent à sortir. Hein. Il y a le châssis, le moule du châssis, voilà, qui commence à prendre forme. Mais on est encore un peu dans le théorique et surtout, on est dans l'idée, et ça, donc Alexis, mon cher Coprez, va pouvoir complètement partager cet avis, mais on est toujours dans l'idée d'essayer de faire un truc en fait, qui est parfait. Et du coup, à chaque fois, on retourne sur des pièces et on se focalise dessus sans justement même avoir cette vision que tu dis globale. Et du coup, on passe sur du temps vraiment sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, et on se focalise du coup moins sur des choses, plus globaux dont tu parles, quoi. Et je crois que ça, en plus, tu me l'as dit en début d'année, il me semble.
Ouais, bah justement. Mais après, retourner sur vos pièces et tout, c'est tout à votre honneur, en fait. C'est vraiment une démarche d'ingénieur, et c'est ça, en fait, qu'il faut. C'est juste que des fois, il faut, quitte à pas faire le meilleur truc possible, mais ce qui est réalisable, en fait. Parce que là, le châssis carbone, c'est un peu encore expérimental. Vous n'êtes pas sûr que ça va marcher à 100%, et vous avez déjà passé 3 ans dessus, en fait. Donc, mais franchement, ouais, ça va être un. Si ça sort et que ça roule correctement, ce sera un beau truc.
Oui, parce que c'est vrai que ce qu'il faut pas oublier, hein, ce n'est loin de moi, enfin l'idée de dédouaner, mais contrairement à des écoles qui sont vraiment 100%, enfin, qui sont même spécialisées en fait dans l'auto, comme l'Estaca, l'Estilvée est une école généraliste, et c'est vrai que c'est un peu notre faiblesse en fait, on a un projet qui est un projet méca. Hein. L'AFS, c'est clairement un projet méca. Dans une école généraliste, et on a les mêmes objectifs finalement que des écoles qui ont un plus gros budget, parce que c'est normal. Hein. Enfin, les STACAS, c'est leur projet même de l'année pour certaines années. Donc voilà. Mais complètement, c'est des grosses difficultés. Ouais, tu veux réagir à ça?
Ouais, bien sûr. Non, mais tu as totalement raison. C'est-à-dire que les STACAS, déjà, ils ont ce que vous n'avez pas. Ils ont un ou deux profs qui sont ingénieurs mécaniciens souvent, qui sont derrière eux constamment. Ils peuvent leur demander n'importe quoi souvent, et ça, c'est un peu la faiblesse du groupe. C'est-à-dire que on n'a pas assez de profs ici qui sont prêts à nous aider pour le projet. Et par contre, on a des deadlines, des demandes qui sont énormes par rapport à ce que notre petit groupe peut réaliser. C'est pour ça que la FS, c'est compliqué, et c'est même, pour moi, je dirais que c'est peut-être une des compétitions qui est la plus poussée techniquement de toutes les compétitions qu'on peut faire en école d'ingé en soi. Parce que il y a les Off-Fly aussi, ils font des fusées, ils les font voler, mais entre guillemets, il n'y a pas trop de risque de derrière. Bon, ça,
oui,
crache,
parce qu'il y a pas
c'est
une
pas grave
humaine dans le projet, quoi.
Là, une FS, on va mettre quelqu'un à plus de 100 km/h. S'il y a une différence au niveau des freins, de la batterie ou n'importe quoi, on met une vie en danger, potentiellement, en fait.
Oui, non, mais complètement. Et bon, après, voilà. Les Off-Fly, ce sont des amis, et on respecte complètement leur projet. Hein. Voilà, ils ont fait une super performance l'année dernière, donc voilà, on est toujours admiratif de ce qu'ils font. Mais oui, ça c'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Et même quand tu prends des projets comme l'EPE, bon, là pareil, même s'il y a une présence humaine à l'intérieur, voilà, l'EPE, ça va à 30 km/h en moyenne, contrairement à une Formula Student, voilà, qui peut atteindre 120-130 km/h. Donc oui, c'est sûr, on n'a pas les mêmes enjeux. J'aimerais retourner un peu dans toutes tes expériences. Là, si tu avais un meilleur souvenir dans le sport auto, ouais. Est-ce que là déjà tu en as un en tête, et ça serait lequel?
Alors, un des meilleurs souvenirs, franchement, c'était un peu cet été. Enfin, j'en ai même plusieurs, mais les derniers en date, c'est notamment cet été quand j'ai pu aller au Grand Prix de Spa. C'était vraiment génial, c'est un peu un rêve d'enfant de voir un Grand Prix et tout. En plus, du coup, j'ai pu le voir de l'intérieur, et parce que du coup, j'ai pu être dans l'écurie Alfa Romeo, donc c'était vraiment génial.
Et t'avais vu en plus du beau monde, non, à l'intérieur de l'écurie
Ouais, j'ai vu Bottas, du coup, j'ai pris une photo avec lui, c'était trop cool.
Voilà.
J'aime
ça.
Après, j'ai vu le départ en qualif de Zou, ça c'était cool. Et après, ouais, j'ai croisé d'autres pilotes, j'ai pu prendre des photos, je crois que c'était Magnussen et Tsunoda. Donc vraiment, C'était vraiment génial.
D'ailleurs, il me semble qu'il y avait une anecdote marrante. J'avais vu ça, je crois que c'était sur les réseaux. On demandait aux pilotes quel était leur plus grand rêve. Et donc, ils ont à peu près tous répondu champion, voilà, champion de Formule 1. Et je crois que c'est Tsunoda. C'est Tsunoda qui dit moi, je vais peut-être ouvrir une petite boulangerie. C'est ça, hein.
Et il fait moi, mon rêve, c'est d'ouvrir un resto.
Ah oui, non, c'est ça. Ouais, incroyable. Incroyable. Non, mais voilà, comme quoi, il faut... on peut être passionné, mais avoir un rêve complètement différent. Hein.
Mais franchement, en tant qu'un petit pilote, on va dire. C'est là qu'on se rend compte que c'est les pilotes de F1, souvent on les critique parce qu'ils ont fait des erreurs ou parce qu'il y en a un qui est moins rapide que l'autre, mais c'est tous des monstres absolus, franchement. C'est... Quand on voit vraiment aux vraies vitesses, parce qu'à la télé ça donne pas une vraie impression de vitesse, mais quand on les voit en vrai, faut être sacrément accroché, quoi.
Ouais, bah, bien sûr, et puis même là pour les préparations, là ils se repréparent pour la prochaine compète. Il me semble, je crois que c'était Charles Leclerc qui avait fait enfin qui passe du temps dans les montagnes, je sais plus où est-ce qu'il est précisément, mais c'est des préparations très très physiques.
Ah quoi. Mais c'est des athlètes, c'est impressionnant. Rien que pour deuxième anecdote du coup d'un meilleur souvenir, il y a pas longtemps, j'ai pu essayer une Radical SR10, donc c'est un gros proto, en gros ça fait 425 chevaux je crois pour à peine plus de 700 kilos. Donc c'est vraiment monstrueux. C'est le summum de ce que j'ai jamais essayé. Et rien que là, j'ai pu une session de 7-8 tours, un truc comme ça. Faut s'accrocher déjà, parce que les freinages, et encore j'utilisais pas tout à 100%. Mais faut vraiment s'accrocher, quoi.
Clairement. Et si on revient pour le kart. Donc toi t'en as un, ton père aussi en a un. Est-ce que tu penses, pour ceux qui veulent en avoir, entre le fait d'en choisir un qui est tout neuf et le fait d'en choisir un, l'épave dont tu m'as parlé qui au final était plus cher, hein, mais est-ce qu'il vaut mieux en choisir un neuf ou en choisir un qui est vraiment en mauvais état mais de le retaper pour avoir son propre carte, enfin à ton avis quel est le choix pour ceux qui sont passionnés par ça et qui veulent pourquoi pas en avoir un jour, quoi.
Moi, on va dire que j'ai eu de la chance d'avoir mon père derrière moi qui me disait au début tiens, ça va pas parce qu'il y a tel truc qui vont pas, donc celui-là même pas la peine, parce que c'est difficile en fait en photo de voir qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui va. Par contre, à force, si je devais donner un conseil, c'est peut-être d'en prendre un d'occasion. A pas beaucoup d'heures. Ce qui est important, c'est le nombre d'heures qu'a le moteur. Très important. C'est souvent moi, deux cartes que j'ai achetées, c'était quand il y avait ils avaient 15 heures à peu près, et je leur ai mis les révisions. J'ai fait toutes les 50 heures en gros, révise le moteur complet. Et voilà, si le moteur déjà il est secoué, c'est peut-être 2000, 3000, 4000 qu'il faut remettre déjà direct dedans.
Moins rentable, et puis on se met plus des bâtons dans les roues, quoi.
Voilà. Après, faut savoir si le châssis il a pas eu de jetons, est-ce qu'il a fait des grosses sorties de piste dans les pneus, etc. Anecdote, avec mon père, souvent quand on est fatigué après avoir fait des gros temps, essayer de faire le meilleur temps en kart, on se dit allez, tour de glisse, et on fait des tours, on essaie de faire les plus grandes glisses possibles et tout, etc. Le problème, c'est qu'un coup, on était fatigué. Et mon père, il commence à glisser, sauf que le kart, il a pas voulu glisser, il a réadhéré tout de suite. Donc il est rentré un peu plus de 70 km/h dans les pneus, comme ça. Donc lui, il a rien eu. Mais par contre, ça se voit pas comme ça sur des photos. Mais la colonne de direction, elle était en S. Et l'arbre arrière, il était en banane, en fait. Et quand il est rentré, du coup, il faisait... ça sautait comme ça.
Ah yes, mais c'est dingue que ton père n'ait rien eu, hein, parce que...
Ouais, après, un kart, il y a quand même moins d'inertie à enlever, en fait, en soi, parce que ça reste léger par rapport à une voiture. Mais ça fait un beau choc quand même. Hein. Les pneus, en fait, c'est des gros pneus. Hein. Les pneus ont volé jusqu'à l'autre côté de la piste, en fait.
D'accord. et donc là, du coup, t'as parlé d'un rêve que t'as réalisé en voyant ce Grand Prix. Ça serait quoi là, du coup, les prochains rêves dans le sport auto que tu aimerais réaliser?
Franchement, là, de temps en temps, j'ai eu l'occasion de piloter, du coup. Et vraiment, un kiff, et c'est pour ça que je vais aussi avoir un bon métier qui gagne bien, c'est vraiment d'acheter quelques voitures. Et puis après, pouvoir faire des track days, souvent, peut-être une fois par semaine, vraiment, et m'éclater sur la piste, parce que je crois que c'est là que je me sens le mieux, en fait, toujours.
Est-ce que tu as le permis, Edouard?
Bah, bien sûr que j'ai le permis.
Est-ce que tu as des difficultés à le conserver, ce permis?
Alors, je
pensais pas qu'il fallait prendre cette question vraiment entre des pincettes, quoi.
J'ai entre guillemets toujours eu de la chance, c'est-à-dire que je me suis jamais fait entre guillemets choper, mais il y a une fois où je me suis fait arrêter. En plus, je mettais Waze, quoi, comme tout le monde. Et Waze, il me marquait 90 km/h et en fait c'était 80. Et je me suis fait toper à un peu plus de 115. Donc il y avait plus 35 km/h. Et en fait, le gendarme, super cool. Il y avait déjà un mec qui était arrêté avant moi. C'était en plein milieu des bois et tout. Et c'était un jeune gendarme. Il devait avoir, je sais pas, 4 ans de plus que moi, max. Et il me dit, vous avez vu le mec qui est reparti là-bas? Il a eu le sourire. Vous pensez que vous allez l'avoir vous aussi? Donc là, je lui ai répondu, à vous de me le dire, parce que moi, je sais pas trop.
Il fait des blagues.
Et là, il me sort, bon, ça va pour cette fois, parce que voilà, moi, j'aime pas trop verbaliser et tout. Ça va pour cette fois, mais faites gaffe. Hop, donc j'ai rien eu.
Alors, tu as eu un bol monstre.
Mais après, enfin, entre guillemets, j'ai pas fait le con non plus. C'est-à-dire que il m'a arrêté, j'ai pas nié, il m'a dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Je dis, bah oui, j'étais en excès de vitesse, quoi. Voilà, c'est.
Ok. Ça c'est une très bonne question de la part de notre team com là. Là, avec ce que tu as vu de la Formula Student, tu vois à peu près, je pense, à quoi elle va ressembler pour cette V1, du coup, quels choix on a fait, même s'il y a encore des choix qui sont discutables et dont vous allez parler ce soir. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme amélioration pour une V2 de la Formula Student? Là, si on doit reprendre, si on, voilà, on fait table rase et on doit refaire une autre, qu'est-ce qu'il faut, enfin, quels sont les grands changements que tu vois qu'il faudra faire et voilà.
Alors déjà, moi, je serais parti sur un châssis tubulaire.
Pareil, je connaissais déjà la réponse.
Parce qu'en fait, toutes les équipes sont jamais parties directement sur un châssis carbone. Ou alors, si elles sont parties sur un châssis carbone, c'est qu'elles avaient des gros gros budgets et elles l'ont fait faire. Alors que la spécialité de VED, il me semble, c'est que on fait notre propre carbone.
Mais on n'a pas des gros gros budgets.
Non, mais d'où la difficulté justement de réaliser un châssis carbone qui va bien marcher en fait. Et si ça marche, franchement, ce sera tout à votre honneur parce que c'est vraiment compliqué quoi. C'est un réel
C'est un
défi
peu le
technique.
challenge. Ouais, voilà. Trop cool. Et est-ce que tu vois du coup d'autres améliorations ou...
Après, toutes les pièces, vous avez fait quelques simulations dessus. J'ai vu que certaines, vous avez fait ce qu'on appelle de la conception topologique. C'est ce que, en gros, on a des points clés de la pièce, des surfaces fonctionnelles, et on va essayer d'optimiser la pièce pour qu'elle fasse le moins de poids possible et qu'elle garde toujours sa même résistance. Donc ça, vous l'avez fait sur quelques pièces, et il faudrait peut-être le généraliser à toutes les pièces. Ça permet un vrai, ça fait un réel gain de poids en fait. Et ça, pour une version V2, ça peut être vraiment pas mal. Après, par expérience, on apprend toujours une fois qu'on a fait la première compétition, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a amélioré en fait. Tant qu'on n'a pas fait généralement de vraies compétitions, on peut pas tout savoir. Il y aura forcément des problèmes, ça va pas marcher nickel dès le début. Donc, on croise les doigts quand même, mais bon.
Yes. Mais je te rejoins sur ça, tu as complètement raison. Rien que pour le PE, on a vraiment un recul parce qu'on a eu les trois compétitions qui sont passées. Et même si on s'était préparé à fond avant, on a eu des problèmes. Voilà. Et puis là, clairement, les choix qu'on a fait, c'est clairement des choix de problèmes qu'on a eu en compète. Donc, je te rejoins à 100% là-dessus. On va renchérir sur encore une énième question sur tes expériences, ma foi. Est-ce que là, tu as encore quelques petites expériences à nous raconter, voilà, des petites anecdotes là. Let's go, c'est le moment de tout balancer.
Ok, alors... à un moment, j'ai voulu, entre guillemets, après, quand j'ai eu le permis, etc., je voulais passer pour voir un peu ce que c'était peut-être être pilote automobile. Et bon, avant d'avoir des voitures qui étaient un peu plus puissantes, j'ai commencé avec ma Twingo sur circuit.
Pourquoi cette histoire part mal?
Non, non, franchement. Et j'avais même, du coup, dans les clients de mes parents, des personnes qui étaient super cool et tout, qui m'ont donné, en fait, même une journée, pendant une journée, qui m'a donné des cours, vraiment, cours de pilotage comme ça à côté et tout, dans la Twingo. Donc déjà, ça m'a permis de connaître un peu tout ce qui était les limites de la voiture, pour que, au cas où, sur la route, il m'arrive pas quelque chose. Et en plus, comme expérience, franchement, c'est un truc que j'en garde, parce que quand on apprend, même s'il y a le kart, quand on apprend vraiment à l'auto-école, ils nous apprennent pas vraiment à freiner. Faire des vrais freinages, un freinage dégressif, ça, on ne nous l'apprend pas. Et c'est après, comme ça, qu'on apprend. Donc là, j'ai commencé avec la... Bon, une Twingo, on peut se dire, c'est pas fou, mais...
Ouais, mais au final, fin, moi, je pensais que cette anecdote partait... Enfin, je me suis dit que t'allais me raconter une catastrophe, en fait. Tu vois ?
La Twingo va bien.
Ok, d'accord, oui. Elle toi,
est...
tu vas bien aussi.
Elle est toujours là.
Ok, parfait. Non, non, bah, du coup, bah, anecdote carrément stylée, du coup.
Non, voilà. Après, j'ai passé... J'ai passé la Twingo, du coup, un truc que j'ai piloté, c'est une Seat Cupra R. Donc ça, c'était bon, un sacré niveau dessus. Et,
combien de chevaux ?
Là, on fait un peu plus de 300.
Ouais, voilà. Là, oui, donc,
Et ça reste lourd. Par contre, ça fait une tonne 4, un truc comme ça. On le descend bien sur circuit. Et mon petit coup de cœur perso, c'est l'Alpine. Voilà. C'est, avec l'Alpine, j'ai découvert déjà tout ce qui est... Les boîtes séquentielles avec les palettes, etc. Donc ça, pour moi, c'était vraiment cool. J'ai connu en plus, c'est pas une Alpine de base, c'est une grosse version de l'Alpine, du coup, qui est développée du coup, bah, par la société de mes parents.
Trop bien, parce que c'est vrai que t'en as parlé, mais la société, enfin, de tes parents, qu'est-ce qu'ils font du coup concrètement?
Alors, c'est de la mise au point moteur, et donc ils ont un banc de puissance où il y a tout ce qui est un peu reprogrammation, mise au point moteur. Ils font garage normal aussi. Donc il y a plusieurs mécaniciens. Il y a un ingénieur qui travaille sur tout ce qui est bah, les programmes, etc. Parce que souvent, quand on dit qu'on fait une reprogrammation, souvent c'est faux, entre guillemets. C'est pas des vrais reprog. C'est souvent... des revendeurs de programmes. En gros, ils viennent, ils téléchargent le programme de la voiture, ils l'envoient sur une plateforme, quelqu'un d'autre le modifie, il remet dedans, hop, terminé. En une demi-journée, tu récupères ta voiture, elle est soi-disant reprogrammée, et voilà. Là, non, il y a un vrai ingénieur qui va modifier le programme en temps réel, et ça demande énormément de temps. Pour tout ce qui est, par exemple, pour une reprogrammation de base, ça peut être 3 jours. Elle passe 3 jours sur le banc de puissance et pour vraiment faire une reprog, parce qu'en plus chaque voiture est unique.
Ça m'inquiète un peu parce que j'ai fait une reprogrammation de ma voiture mais ça a pas duré 3 jours, tu vois. Ça a duré vraiment une partie de la journée, quoi.
Voilà. Bah, désolé de t'annoncer que probablement.
Mauvaise nouvelle.
Non, par exemple, quand ils ont développé du coup la grosse Alpine, c'est l'Alpine à plus de 360 chevaux. Il y a tout le circuit de refroidissement qui a été vu. Beaucoup de choses. Le programme moteur, en fait, il faut savoir que on dit une carto, en fait, il n'y a pas une carto, il y en a 12 000 dans la voiture. Et en fait, il faut les modifier souvent une par une ou par paquet. Et ça prend, il y a eu des centaines et des centaines d'heures de développement, en fait. Donc, ça, franchement, la conduire et tout, c'est vraiment génial.
Bah écoute, plein d'anecdotes que tu nous as offertes pendant ce podcast. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très cool de te parler, Edouard. Et puis, enfin voilà, tu fais partie voilà des sacrées surprises qu'on a eues dans le recrutement cette année, quoi. Voilà, c'est très cool de t'avoir avec nous. Je te remercie d'être venu. Hein, voilà.
Je suis super content de vous avoir rejoint aussi. Ah. Franchement,
Eh bah, trop cool. C'est partagé. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve dans un prochain podcast, voilà, pour un prochain épisode. On a été, pareil, très contents de vous faire partager ça. Merci si vous êtes toujours là. Et puis, bah, on vous dit ciao. Voilà. Ciao, bye bye.